Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Bram FM. Il est 13h, passé de 3 minutes et nous sommes le lundi 22 mai 2023. Et aujourd'hui, littérature, jeunesse et biodiversité au menu de cette émission. J'ai le plaisir de recevoir dans le studio à mes côtés Valériane Chrétien. Bonjour.
Bonjour.
Et vous ouvrez le 10 juin prochain votre librairie jeunesse à Brive. Nous allons y revenir, vous êtes mon invité pour cette première partie d'émission. À 13h30, vous entendrez le journal régional proposé par le Graal. Et c'est aujourd'hui la journée mondiale de la biodiversité. Qu'est-ce que cette journée? Où en est la biodiversité aujourd'hui? Et que prévoit-on pour notre futur? C'est la deuxième partie de cette émission. Enfin, du 16 au 28 mai 2023, le festival itinérant du Conte parcourt les routes de Creuse et de Corrèze pour offrir des spectacles de qualité dans les villages avec des petites jauges et souvent gratuits. Viviane Olivier, directrice de la bibliothèque départementale de Creuse, nous évoque l'esprit de ce festival proche des gens. C'est la chronique du jour en Limousin et elle est présentée par Anne-Laure Le Joliffe et vous l'entendrez évidemment à 13h50. Enfin à 13h55, Isabelle vous donnera le temps de demain, c'est promis. Vous êtes ici sur Bram FM jusqu'à 14h et nous sommes en direct. Et il était une fois, à Brive, l'ouverture d'une nouvelle librairie jeunesse où toutes celles et ceux qui aiment dévorer les histoires sous la couette, au coin du feu, dans l'herbe ou dans les arbres, pourraient y trouver leur bonheur. Tous et toutes sans exception, l'ouverture sera le 10 juin prochain et même si cette histoire commence comme un conte, c'est surtout votre histoire à vous, Valériane Chrétien. Merci d'être dans le studio avec nous aujourd'hui.
Merci à vous.
Comment est né votre amour pour les livres ?
Eh bien, il est né comme beaucoup de lecteurs et de lectrices par les livres que j'ai lus quand j'étais toute petite, que mes parents m'ont acheté, m'ont lu, et par les livres que j'ai lus moi-même après en sachant lire. Et c'est devenu une passion qui ne m'a jamais quittée depuis.
Alors, quels sont les auteurs et ou les autrices qui ont marqué votre enfance ?
Alors, le premier que je peux citer qui m'a marquée toute petite, c'est Claude Ponty, avec ses livres foisonnants d'illustrations, son imaginaire absolument incroyable dans lequel on se perd. Et un peu plus tard, il y a eu une autrice française, Pauline Alphen, qui a un univers imaginaire aussi incroyable pour les romans. Il y a eu Pierre Bottero. Et en fait, j'ai très très vite été attirée par la littérature de l'imaginaire. Je lisais des romans classiques, des enquêtes, des énigmes, de la vie de tous les jours, mais j'ai très vite basculé, j'ai été happée par ce côté imaginaire où on part dans un monde totalement différent et de la fantaisie aussi, exactement.
Quel fut l'impact de la lecture sur votre histoire personnelle ?
C'est quelque chose qui m'a longtemps accompagnée, mais plus un petit peu comme un refuge, comme un plaisir où j'avais envie de lire pour changer mon quotidien, pour aller dans un monde où tout était possible, où il y avait de la magie, il y avait des créatures incroyables, où un petit peu comme on pourrait aller regarder un dessin animé en se disant « Ah, mais il se passe des choses folles qu'on ne voit pas dans la vie de tous les jours ». Dans les livres, c'est pareil. Quand on lit un livre, on se fait un petit peu son image mentale de l'histoire et puis on part ailleurs, on oublie totalement tout ce qu'il y a autour de nous.
Avez-vous une librairie fétiche ou une librairie de votre enfance? Quels souvenirs en avez-vous ?
Alors, librairie fétiche, pas tellement, puisque quand j'étais toute petite, j'ai plus le souvenir que ma mère recevait les livres de l'école des loisirs en fait par abonnement à la maison. Et puis après, on va dire que la première librairie qui m'a marquée, c'est Les Trois Épiers à Brive, où j'ai fait mon lycée, où j'allais justement me balader. Quand j'avais des heures de livre, j'allais là-bas, je prenais un livre, je me posais pour lire, et puis après, je passais à la caisse pour l'acheter, pour pouvoir continuer à lire à la maison. Mais quand j'ai fait mon lycée à Brive, j'ai toujours trouvé dommage qu'il n'y ait pas une librairie indépendante qui soit spécialisée dans la jeunesse et qui puisse vraiment montrer toute l'étendue de ce que cette littérature a à offrir aux jeunes et d'avoir aussi des libraires qui puissent conseiller, qui puissent faire découvrir des choses que si on n'a pas la curiosité d'aller farfouiller dans les rayons, on ne trouvera peut-être jamais.
Et vous avez depuis toute petite aimé parcourir les voyages, les histoires et les univers qui peuplent les romans. Mais vous aviez une autre passion, Valériane Chrétien, dont j'aimerais vraiment parler avec vous parce qu'elle dit quelque chose de vous. Votre passion, c'était les volcans. Pourquoi ?
Oui, quand j'étais petite, j'étais fascinée par, par les volcans, par ces monstres vraiment de la nature qui étaient assez impressionnants, incroyables. Et puis quand ça se déclenchait, c'était terrible. Mais il y avait un côté aussi très, très fascinant dans les volcans qui m'a amenée à me demander... comment il fonctionne, qu'est-ce qui se passe en fait dans un volcan qu'on ne peut pas voir. Et voilà, petit à petit aussi, c'est à l'école, au collège, où j'ai eu une super prof de sciences et vie de la Terre qui m'a poussée un petit peu dans cette passion-là. Et quand est venue la fin du collège, la fin du lycée, se demander... dans quoi est-ce que je vais continuer vraiment mes études ? J'avais toujours un petit peu ce balancement entre les sciences et les livres. Et au début, je me suis dit, on va partir d'abord dans les sciences. Et il y avait une fac de géologie à Clermont-Ferrand, justement, qui proposait des sorties de terrain dans les volcans d'Auvergne. Et là, je me suis dit, ce serait super, hein, environné de volcans, on peut faire des sorties, ce ne sera pas juste du théorique, donc on y va. Mais finalement, une fois les études commencées, je me suis rendu compte que je ne pourrais pas en faire mon métier, que je ne me voyais pas du tout vivre de ça. Et finalement, je me suis retournée vers ma seconde passion, les livres. Et j'ai fait, toujours à Clermont-Ferrand, une licence de métier du livre qui, là, a achevé de me mettre le pied à l'étrier pour faire de ma passion du livre mon métier.
Et vous avez déjà travaillé à de nombreuses reprises dans des librairies, vous avez fait plusieurs rayons, pas seulement jeunesse, mais qu'est-ce qui vous a séduit donc dans l'univers de la littérature pour les enfants ?
Au début, effectivement, j'ai commencé en littérature générale puisque c'était le seul poste que j'ai trouvé. En fait, c'était pas forcément évident de trouver, quand on débute, un poste qui accepte les débutants, comme dans de nombreux métiers actuellement. Et là, il a fallu que je parte à Perpignan. Et du coup, voilà, ça a été ma première découverte. Et quand est venu le moment de passer en jeunesse, qu'on me l'a proposé, j'ai dit oui tout de suite parce que ça a réveillé ma passion d'enfance de la littérature jeunesse et parce que j'accorde vraiment beaucoup, beaucoup d'importance au fait de faire lire les enfants, puisque c'est ce qui va amener le goût de la lecture plus tard. Si on arrive à accrocher un enfant à la lecture dès le plus jeune âge, dès tout petit, c'est un goût qui va rester ensuite, où l'enfant va connaître le livre, va savoir toute la richesse qu'il contient et va avoir la curiosité d'aller en découvrir toujours plus, que ce soit dans les romans, dans les BD, dans les documentaires, plus tard dans les romans adultes. Mais voilà, plus on commence jeune à lire des livres et mieux c'est, et plus ça va nous enrichir chacun au quotidien. Donc voilà, je voulais vraiment défendre cette idée-là aussi de tout ce qu'apportent les livres aux enfants, que c'est pas seulement un moyen de divertissement comme un dessin animé, ça enrichit vraiment aussi beaucoup la culture, la personnalité, la façon dont on va voir la société grandir, enfin ça influence sur beaucoup de choses.
Et puis on parlait hors antenne aussi de cette joie de redécouvrir entre les rayons des ouvrages que vous-même vous avez lus petite et le plaisir d'aller les conseiller à des lecteurs et lectrices. Donc c'est aussi cette passion qui revient et aussi la question de transmission aussi de cette passion.
Oui, tout à fait, puisque contrairement à mon sens à la littérature pour adultes, la littérature jeunesse est assez intemporel. Il n'y a pas de date, il n'y a pas d'époque, à part quand on vient dans le roman où on peut avoir des romans historiques qui vont se passer pendant la guerre, etc. Mais les albums, les livres pour les tout-petits, il n'y a aucune époque. Donc, que ce soit un livre écrit il y a 30 ans ou un livre écrit il y a 3 mois, il peut tout à fait être lu par le même enfant. Et c'est quelque chose qui se perd. Aujourd'hui, de plus en plus, les livres ont une date de péremption qu'on ne dit pas. Mais voilà, un livre, par exemple, qui a passé 6 mois, 9 mois en librairie, qui ne s'est pas vendu, on va le retourner pour faire de la place aux nouveautés, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés qui arrivent. Et du coup, il faut sans cesse mettre en avant le nouveau, découvrir le nouveau. Alors qu'en littérature jeunesse, on peut plus prendre le temps de garder les classiques d'enfance, de les reconstruire, conseiller parce qu'ils sont toujours toujours au goût du jour et que c'est des thématiques qui parlent à tous les enfants, peu importe la génération. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai plaisir en tant que libraire de pouvoir faire partager des livres qui, moi, personnellement, m'ont touchée et que je vais pouvoir faire découvrir à plein d'autres enfants. Ça a un côté très, très satisfaisant et c'est pour ça aussi que je suis attachée à la librairie indépendante, c'est qu'on est attachée au conseil, à l'échange, à la transmission, alors que dans d'autres points de vente du livre, vous allez dans le rayon, vous prenez votre livre et puis au revoir, merci, c'est un peu n'importe quel objet. Alors qu'en librairie, il y a toute une relation qui se construit entre le lecteur et le livre, entre le lecteur et le libraire aussi. Enfin, c'est un métier très, très enrichissant.
Et le lieu aussi la librairie, c'est vraiment un lieu, un temple pour ceux qui aiment. Enfin, c'est un refuge aussi, autant que le livre. Alors, je vous propose une pause en musique et après, nous poursuivons cette interview avec vous, Valériane Chrétien. On se retrouve juste après un titre de la chanteuse Juliette qui dit à voix basse et qui parle évidemment de la lecture. On l'écoute.
J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction ? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close, qui donc pouvaient être ces gosses, cette invasion de petites filles? Que me voulaient ces carabosses qui leur tenaient lieu de famille? J'ai vite compris à leur manière, à leurs habits d'un autre temps, que ces visiteurs de mystère étaient sortis de mon roman. Ils jacassent à voix basse dès que j'ouvre mon bouquin. Je délivre de leurs livres des héros, des vauriens qui surgissent, m'envahissent, se vautrent sur mes coussins, qui s'étalent et déballent d'un jeu sale et chagrin. Ils me choquent, m'interloquent et me parrainent à témoin de leurs vices, leurs malices, de leurs drôles de destin. Mauvais rêve qui s'achève dès que je lis le mot fin. À voix basse, ils s'effacent quand je ferme le bouquin. À voix basse, ils s'effacent quand je ferme le bouquin. Depuis, dès que mes yeux se posent entre les lignes, entre les pages, mêmes effets, mêmes causes, je fais surgir les personnages. Pour mon malheur, je lis beaucoup et c'est risqué, je le sais bien. Mes hôtes peuvent aussi être fous, ou dangereux, ou assassins. J'ai fui devant des créatures, repoussé quelques décadents, échappé de peu aux morsures d'un vieux roumain extravagant. J'évite de lire tant qu'à faire les dépravés, les malades, les histoires de serial killers, les œuvres du marquis de Sade. Ils jacassent à voix basse dès que j'ouvre mon bouquin. Je délivre de leurs livres des héros, des vauriens qui surgissent, m'envahissent, se vautrent sur mes coussins, qui s'étalent et déballent linge sale et chagrin. Ils me choquent, m'interloquent et me parlent à témoin de leurs vices, leurs malices, de leurs drôles de destin. Mauvais rêve qui s'achève dès que je lis le mot fin. À voix basse, ils s'effacent quand je ferme le bouquin. À voix basse, ils s'effacent quand je ferme le bouquin. N'importe quoi qui est imprimé me saute aux yeux littéralement. Et l'histoire devient insensée car je ne lis pas que des romans. Ainsi j'ai subi les caprices d'un Apollon de Prospectus. J'ai même rencontré les trois Suisses et le caissier des emprunts russes. Un article du code pénal poilu comme une moisissure s'est comporté comme un vandale se soulageant dans mes chaussures. Ce démon qui vient de filer, ça ne serait pas, je me le demande, un genre de verbe irrégulier sorti d'une grammaire allemande. Cesser de lire pour qu'ils cessent de me hanter, brûler mes livres pour finir dans un glorieux auto-da-fé. Mais j'aime trop comme un opium ce rendez-vous de chaque nuit, ces mots qui deviennent des hommes, loin de ce monde qui m'ennuie. Malgré les monstres et les bizarres, je me suis fait quelques amis. Alors j'ouvre une page au hasard d'un livre usé que je relis. puis j'attends, je dois l'avouer, au coin d'un chapitre émouvant, que vienne d'un prince ou d'une fée, un amour comme dans les romans, comme dans les romans.
À voix basse de Juliette sur Bram FM. Et avant cette pause en musique, nous parlions de l'univers littéraire qui a bercé votre enfance, Valériane. Vous ouvrez votre librairie jeunesse à la Croisée des mots, c'est son nom, le 10 juin prochain à Brive. Comment le déclic d'ouvrir votre propre librairie est-il venu ?
Eh bien, c'est une idée que j'avais dans le coin de la tête depuis le lycée, où je me disais qu'il faut une librairie jeunesse indépendante à Brive, ce serait génial. Et puis, sauf que je ne voulais pas me lancer tout de suite. Enfin, je me suis dit, il faut quand même que je prenne de l'expérience, que je me forme dans une librairie. C'est pourquoi je suis partie à Perpignan. Et puis... ayant mon compagnon qui est lui aussi originaire de Corrèze, finalement, on a décidé de revenir faire notre vie en Corrèze, dans notre belle région verdoyante et bien agréable. Et une fois qu'on a pris notre décision, en fait, j'ai regardé s'il y avait des postes de libraire jeunesse à pourvoir en Corrèze, et il n'y en avait pas. Et je me suis mis à regarder un petit peu les locaux, à me renseigner. Et finalement, je me suis dit, ok, c'est parti, on veut revenir en Corrèze, il n'y a pas de poste de dispo. Donc, la seule façon pour moi de continuer à faire le métier qui me passionne, c'est de monter ma librairie. Et donc, let's go. On prend son courage à deux mains, la motivation, et puis on fonce.
Chapeau.
Merci.
Le nom de votre librairie, à la Croisée des mots, comment est-ce que vous l'avez pensé ? Ça doit être très difficile de trouver un nom, non ?
Oui, c'est assez difficile, surtout que moi, je veux quelque chose qui ait vraiment du sens. Enfin, on a tout type de noms aussi qu'on peut trouver de librairie. Moi, la Croisée des mots est venue parce que je suis une fan inconditionnelle de la saga de Philip Pullman, qui s'appelle À la Croisée des mondes, qui a bercé aussi mon adolescence, qui avait été adaptée en film que j'avais vraiment adoré. Et c'est vraiment une saga que j'ai lue, que j'ai relue, qui m'a beaucoup impactée. Et du coup, voilà, je voulais pas reprendre ce nom tel quel parce que pour moi, ça aurait été du plagiat, clairement. Mais voilà, je voulais l'adapter aussi. Et j'aime beaucoup aussi l'idée qu'il y a derrière, que les gens peuvent se croiser et que les livres peuvent faire se rencontrer, se rejoindre des gens qui ne se connaissent pas et que voilà, par le livre, on voyage aussi beaucoup. On voyage dans d'autres univers, on voyage en soi, on voyage dans le quotidien aussi, suivant ce qu'on choisit de lire. Mais en lecture, on n'est jamais vraiment... On est statique physiquement d'aspect extérieur, mais dans la tête, on est toujours ailleurs dès qu'on ouvre les pages d'un livre. Donc voilà, je voulais jouer aussi sur ce côté de voyage, de rencontre, de croisement entre les gens, entre les livres.
Oui, George R. Martin a dit « Un lecteur vit un millier de vies avant de mourir, celui qui ne lit pas n'en vit qu'une ».
Oui, tout à fait.
C'est cette question du perpétuel mouvement et de l'aventure qui se renouvelle à chaque nouveau livre. Quel rôle joue pour vous la littérature dans le développement de l'enfant ?
Mais pour moi, un rôle très très important, si ce n'est essentiel, puisque un livre va... va aider à développer plein de choses chez l'enfant. D'abord, l'observation, la patience aussi pour la lecture, la curiosité énormément, l'imaginaire et puis le... Pour moi, c'est très, très enrichissant. Après, une fois qu'on a mis un livre entre les mains d'un enfant, libre à lui de choisir le genre qui va lui correspondre. Il y a des enfants qui vont adorer la BD, le manga, qui vont ne lire que ça et qui vont être très enrichis par ces lectures-là, que certains méconsidèrent d'ailleurs à mon grand regret. Mais voilà, il y en a qui vont être passionnés par les documentaires, qui vont être très curieux, très pointilleux. Et moi, j'ai eu des lecteurs qui, à 7-8 ans, pouvaient me sortir toutes leurs connaissances sur les dinosaures, connaissances qui étaient bien plus développées que la mienne.
Ça me rappelle un petit Alexandre qui est déjà venu à l'antenne de Bram FM et qui est vraiment passionné par les dinosaures. Ouais. Je pense qu'il enrichit sa connaissance aussi par le biais des ouvrages.
C'est ça. Et voilà, il y a plein de thématiques différentes, que ce soit après le roman. Bah, il faut pas oublier que souvent, enfin, beaucoup de lecteurs adultes sont lecteurs parce qu'ils ont lu des livres quand ils étaient enfants aussi. Et qui, voilà, maintenant, ils lisent des romans adultes. Mais il y a ce côté où voilà, bah, la lecture jeunesse, quand on est enfant, a une place très, très importante. Et puis, ne serait-ce que pour l'apprentissage aussi, beaucoup de spécialistes disent que... Bah, un enfant lecteur a plus de facilité à l'école, a plus de facilité dans l'apprentissage, dans la mémorisation, dans les études derrière. Donc, c'est quelque chose de très bénéfique. Et puis, lire aussi, même pour des enfants qui ont des problèmes d'orthographe, bah, ça peut aider. Ne serait-ce que de lire, de faire attention aux mots, etc. Ça aide pas mal avec un côté ludique où on n'est pas en train de réviser, de prendre un livre de grammaire, de français. On lit juste une histoire qui nous plaît, mais inconsciemment, on a bah, les tournures de phrases, la grammaire, l'orthographe qui nous rentrent dans le cerveau et qui aident à l'apprentissage ensuite. Donc, pour moi, le livre a vraiment plein d'avantages. Et pour moi, il n'y a aucune raison bonne ou mauvaise d'interdire à un enfant de lire ou de dire « Ah non, prends pas ce livre ». Chaque livre va apporter quelque chose au lecteur.
Alors, que peut-on croiser dans les rayons de votre librairie ?
Eh bien, il y aura pas mal de choses, justement, puisque mes 70 mètres carrés seront vraiment consacrés aux enfants de tous âges, vraiment des tout petits, avec des livres tissus, puisque voilà, avant d'être une histoire, il y a aussi l'objet livre, et c'est assez fascinant de voir des petits bébés qui tournent les pages d'un livre d'eux-mêmes. Donc voilà, il y aura des livres d'éveil, des albums, des documentaires pour les petits comme pour les grands. Il y aura un petit peu de BD aussi, même si je serai loin de faire la concurrence aux spécialistes BD de Brive, mais vous pourrez trouver un petit peu mes choix, mes recommandations en BD. Il y aura des romans, bien sûr, des romans de la vie de tous les jours, des romans de l'imaginaire, des romans humoristiques, quelques romans un peu frissons, horreur, même si ce n'est pas du tout mon domaine. Je sais que voilà, c'est quand même des thèmes qui peuvent être intéressants pour les enfants, donc j'en aurai. Il y aura aussi quelques livres jeux des Cherche et Trouve, puisque voilà, le livre a aussi différentes formes. Ce n'est pas que des romans où il y a du texte partout. Il y a aussi les livres jeux qu'il ne faut pas sous-estimer. Ou parfois, quand les enfants se disent « Ah non, moi, j'aime pas les livres », essaye de passer par un livre jeu, essaye de passer par une BD. Et petit à petit, peut-être que ça t'ouvrira les portes à d'autres livres. Mais voilà, et je veux... En fait, surtout pour les romans de l'imaginaire, qui sera un petit peu mon grand rayon de romans que je vais mettre en avant, faire un pont entre tous les âges. Il y aura des romans de l'imaginaire pour les jeunes lecteurs, enfin 8-9 ans, qui peuvent lire de façon autonome. Il y en aura pour les adolescents. Mais les romans de l'imaginaire, il y a aussi des adultes qui aiment ça, qui en lisent toujours, qui ont été voilà, accrochés à l'enfance ou à l'adolescence et qui aiment toujours ce livre à 30, 40, 50 ans passés. Et donc, je veux aussi avoir une proposition pour ces personnes-là qui aiment cette littérature de l'imaginaire sans considération de l'âge. Et puis, montrer aussi qu'une librairie jeunesse, c'est pas à 18 ans, t'es adulte, ciao, tu vas dans une librairie généraliste et au revoir. Il y a aussi les livres jeunesse, pour moi, c'est pour tous les âges. Même moi, à 29 ans, j'ouvre un album, je lis une histoire. Bah, des fois, je me mets à rire toute seule ou alors... des fois, ça fait un bien fou de lire un livre jeunesse quand on est adulte, parce que ça nous ramène au sentiment d'enfance, à la joie, à des couleurs, à un bien-être qui fait du bien à un moment. Voilà. Moi, j'ai envie de dire, ben, vous avez un coup de blues dans votre vie de tous les jours, vous prenez un livre jeunesse, vous l'ouvrez et vous verrez, ça ira mieux. Ça ira beaucoup mieux.
Donc... Oui, puis ça peut être aussi un vecteur de réminiscence en replongeant aussi dans un ouvrage qui nous a beaucoup plu enfant.
C'est ça.
Où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations concernant votre librairie à la Croisée des Mots qui ouvre ses portes le 10 juin prochain au 24 bis avenue Émile Zola à Brive?
Les informations, pour l'instant, vous pouvez les retrouver principalement sur Facebook, sur la page de la librairie qui s'appelle Librairie à la Croisée des Mots. J'aurai prochainement aussi un site internet où seront données toutes les informations, où vous pourrez faire de la commande en ligne aussi, du click and collect, et venir retirer vos commandes à la librairie. J'ai un compte Instagram aussi de la librairie, pareil, qui s'intitule Librairie à la Croisée des Mots. Un petit compte TikTok pour les ados, mais que je vais commencer plus à alimenter une fois que la librairie sera ouverte et que j'aurai reçu les livres. Mais voilà, principalement sur la page Facebook, ou voilà, en s'abonnant après à la newsletter une fois que le site sera ouvert.
Et on remettra évidemment le lien de cette page Facebook sur le podcast de l'émission qui sera disponible à partir de 14h30. Merci à vous infiniment d'avoir été mon invitée pour cette première partie d'émission, Valériane Chrétien.
Merci à
vous. Et nous vous souhaitons donc le meilleur pour cette nouvelle aventure, et nous espérons que les éditeuristes seront nombreux et nombreuses à venir pousser la porte de cette librairie jeunesse qui ouvre donc le 10 juin prochain au 24 bis avenue Émile Zola. Belle adresse. Merci beaucoup à vous.
Merci à tous, à bientôt.
Et on se quitte en musique juste avant le journal régional avec Albin de la Simone, J'aime lire.
J'aime lire les grands récits de chasse, l'odeur de la besace, le muscle du cheval, les plumes sous les balles. J'aime lire l'album de la comtesse, les tresses et la détresse. J'aime quand un simple mousse la trousse et la détrousse. J'aime lire les trajectoires en pente, les épopées sanglantes, brusquement et soudain. Pourtant tout allait bien. J'aime lire. Mais non, je ne l'ouvrirai pas, je la laisserai là, cachetée, silencieuse. Je ne risquerai pas. J'aime lire les rapports de police, les tortures, les supplices. J'aime la garde à vue, le pas vers la bavure. J'aime lire les histoires de guerre, les vraies, celles d'hier, celles qui se terminaient et la vie reprenait. J'aime lire. Mais non, je ne l'ouvrirai pas, je la laisserai là, cachetée, silencieuse. Je ne risquerai pas, je ne la lirai pas, je la laisserai là, grenade silencieuse, je ne risquerai pas. J'aime lire, je ne l'ouvrirai pas,
tous mes passages, non ça
je ne laisserai là,
pas ces histoires là,
cachetées, silencieuses.
Pas mes histoires à moi,
je ne risquerai pas. Je ne l'ouvrirai pas, je la laisserai là. Je ne risquerai pas, et je ne saurai pas.
de la Simone avec le titre « J'aime lire » sur Bram FM. Dans quelques instants, nous reviendrons sur la journée mondiale de la biodiversité. Je ne vous en dis pas plus, il est 13h32 sur Bram FM et c'est l'heure du journal régional proposé par le Graal. À tout de suite.
L'actualité en Limousin et Périgord, le journal des radios associatives libres. Sébastien Péjou.
Bonjour à tous. Des centaines de kilomètres de bouchons un peu partout en France hier. Ce fut un dimanche très chargé sur les routes, y compris en Limousin, avec plusieurs accidents sur l'autoroute A20. Par exemple, en Haute-Vienne, au niveau de Magnac-Bourg, hier matin, le carambolage a impliqué 7 véhicules et 16 personnes, dont 3 ont dû être évacuées vers le CHU de Limoges. Quelques instants plus tard, un accident matériel a bloqué l'autoroute au niveau de Bessines-sur-Gartempe. Sur cette portion, la circulation n'a été totalement rétabli que hier soir. Fermeture d'une portion de la RN 145 à partir de ce matin. Il s'agit là de travaux qui vont être menés entre Bellac et l'échangeur 23 de l'autoroute A20 jusqu'à vendredi inclus. La DIRCO profite de l'enfouissement de réseaux électriques pour le compte de RTE pour réaliser des travaux de réfection de la chaussée sur cette portion de route d'une trentaine de kilomètres. Des déviations sont en place. Les entreprises PSA et Renault ont-elles participé à la décadence du site GMES de la Souterraine? C'est demain que le tribunal de Guéret rendra son délibéré, une procédure judiciaire qui oppose les ex-GMES aux deux géants de l'industrie automobile depuis 2017. Intérim et Handicap est une entreprise adaptée de travail temporaire en Limousin. Son but est de lever les freins du handicap au travail grâce à un processus ciblant en amont les entreprises sensibles aux enjeux du handicap et de l'inclusion. La jeune entreprise s'adresse aux employeurs chefs d'entreprise et aux candidats salariés en situation de handicap. Orlane participe à l'expérimentation Intérim et Handicap à Limoges. Elle est au micro RTF de Jean-François Biardot.
Depuis 2019, l'expérimentation a été créée et Intérim et Handicap a été ouvert depuis septembre 2022. Donc c'est une ouverture qui est plutôt récente et qui vise en fait à réduire le taux de chômage pour les personnes en situation de handicap. Détenir une RQTH, donc une reconnaissance en tant que travailleur en situation de handicap, ne veut pas dire que on ne peut pas exercer en fait sur le marché de l'emploi. Bien au contraire, une personne qui détient une RQTH est une personne qui a décelé en fait son problème et qui peut ensuite adapter son travail. La plupart des personnes qu'on a en agence, donc on compte un vivier de 202 intérimaires, sont des personnes qui sont motivées et qui peuvent effectivement travailler comme tout le monde.
Il y aurait actuellement 13% de personnes en situation de handicap qui seraient au chômage contre 7% chez les personnes valides. Intérim et Handicap à son siège, boulevard Carnot à Limoges, vous pouvez les joindre au 05 55 57 30 95. Fin de l'aventure et fin de la saison pour les rugbymen guéretois qui se sont inclinés 18-3 à Plouzané hier en Bretagne. La montée en fédéral 2 du RCGC ne sera donc pas pour la saison prochaine. La défaite d'hier après-midi est sévère, mais cela ne doit pas faire oublier la très bonne saison des sportifs creusois qui peuvent être fiers d'avoir atteint les 16e de finale de fédéral 3. Le public n'a pas eu peur de la pluie hier pour les ostensions de Saint-Léonard de Noblat en Haute-Vienne. 600 pèlerins venus de France et d'une quinzaine de pays ont pris part à la grande procession, un cortège dans lequel on pouvait voir des miolettous qui avaient pris l'apparence de grands personnages comme Charles VII et sa cour, des pèlerins de Saint-Jacques, des délégations de Saint-Léonard de toute l'Europe, les confréries limousines et bien sûr les chasses reliquaires. Dimanche, ce sera au tour de Rochechouart de célébrer son saint patron. Depuis 1852, à Rochechouart, on honore particulièrement Saint-Julien de Brioude. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Très belle semaine à tous.
Vous êtes ici sur Bram FM.
Et vous retrouverez le journal régional à 17h et à 18h30. Vous êtes ici, oui, sur Bram FM au 98.3 ou via notre site internet bramfm.com où vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast. Nous sommes ici dans le studio jusqu'à 14h. Dans une quinzaine de minutes, vous entendrez la chronique en Limousin. Mais elle m'a rejoint dans le studio pour nous faire découvrir son titre du jour. Bonjour Isabelle.
Bonjour Ave. Difficile aujourd'hui de ne pas consacrer cette chronique à Andy Rourke, bassiste des Smiths, qui vient de mourir à l'âge de 59 ans. Né en 64 à Manchester, il était bien plus qu'un simple bassiste. Son style unique a contribué de manière significative à l'identité musicale des Smiths. This Charming Man des Smiths est mon titre du jour. Dès ses premières notes, on est immédiatement transporté par le son distinctif d'Andy Rourke. Sa ligne de basse hypnotique crée une toile de fond parfaite pour la voix inimitable de Morrissey et des riffs du fameux Johnny Marr à la guitare. Dans ce morceau, la basse de Rourke accentue l'atmosphère à la fois entraînante et mélancolique, caractéristique, j'ai envie de dire principale, du son si reconnaissable des Smiths. Lors de l'enregistrement de This Charming Man, Rourke avait accidentellement effacé toute la partie de guitare de Johnny Marr et au lieu de paniquer, celui-ci a réagi avec flegme en utilisant une guitare acoustique qui n'était pas prévue au départ pour enregistrer une nouvelle partie, ajoutant ainsi une autre texture, ma foi, bien intéressante à ce morceau. Ce moment inattendu a permis de créer une composition encore plus intéressante et illustrer la collaboration créative entre les membres du groupe. La carrière d'Andy Rourke avec les Smiths a été marquée par une série de succès et d'albums acclamés par la critique que certains connaissent bien, même très bien. Il a été un pilier essentiel de la musique du groupe. Après la dissolution des Smiths en 1987, Rourke a poursuivi sa carrière musicale, travaillant avec divers artistes comme les Pretenders, Ian Brown, Sheena O'Connor et j'en passe, il y en a plein, et fondant même sa propre formation, Free Bass, un trio avec deux autres bassistes de Manchester, Manny, ex-Stone Roses, et Peter Hook, ex-New Order. Malheureusement, la vie d'Andy Rourke n'a pas été exempte de difficultés personnelles. Il a fait face à des problèmes de toxicomanie dont il s'est sorti et qu'il a réussi à surmonter. Mais un cancer du pancréas a eu raison de lui le 19 mai dernier. Aujourd'hui, pour tous les fans des Smiths et pour les autres aussi, et puis pour nous tous, et puis aussi pour moi, parce que c'est un petit plaisir égoïste, je ne vais pas m'en cacher non plus. Je veux rendre hommage à la contribution importante d'Andy Rourke à la musique, à celle des Smiths, qui a grandement influencé de nombreux musiciens et a contribué à façonner le son de toute une génération. Sa créativité et sa passion resteront gravées dans l'histoire de la musique.
Smith avec le titre This Charming Man. Merci beaucoup Isabelle.
Eh bien, plaisir d'offrir, joie de recevoir. Je reviens tout à l'heure pour
oui,
la météo.
Mais à 13h55.
Je vous mijote autre chose pour demain.
Oh, bon.
Mais ce ne sera pas nécro cette fois. Enfin, je ne sais pas.
Ouais, c'est OK. Hein.
Non, faut bien que je bien. Parle de vivant aussi quand même de temps en temps.
Bon, en tout cas, on se retrouve à 13h55 pour une réalité
ouais,
bien
ça,
vivante,
c'est sûr.
La météo.
Je vais me changer en tout cas.
Oui, allez passer votre robe couleur du temps.
À tout à l'heure.
Et aujourd'hui, 22 mai, c'est la journée mondiale de la biodiversité. Alors qu'est-ce que cela signifie? Où en sommes-nous aujourd'hui et où va-t-on? C'est le programme que je vous propose pour cette deuxième partie d'émission. Tout d'abord, une date, celle du 22 mai. Comment en est-on arrivé à une journée mondiale de la biodiversité? La diversité biologique ou biodiversité est le terme qui désigne toutes les formes de la vie sur Terre et les caractéristiques naturelles qu'elle représente. Cette diversité s'explique généralement en termes de la vaste gamme de plantes, d'animaux et de micro-organismes. Mais la biodiversité s'étend également aux différences génétiques à l'intérieur de chaque espèce, comme par exemple des différences entre des variétés de plantes cultivées et de races de bétail. La biodiversité offre en outre d'innombrables services, tant au niveau local que mondial. En effet, les poissons assurent 20% de l'apport protéique à environ 3 milliards de personnes. Plus de 80% de l'alimentation des êtres humains est assurée par des plantes. Près de 80% des habitants des zones rurales des pays en développement ont recours aux médicaments traditionnels à base de plantes pour les soins de base. Mais la perte de biodiversité menace tout le monde, y compris notre santé. Et il a été prouvé que la perte de biodiversité pouvait étendre les zoonoses, ce sont les maladies infectieuses transmises par les animaux aux humains. Alors que d'autre part, si nous gardons la biodiversité intacte, elle offre d'excellents outils pour lutter contre les pandémies comme celles causées par les coronavirus, qu'on connaît assez bien ces dernières années. Profondément préoccupé par l'appauvrissement continu de la diversité biologique dans le monde, l'Assemblée générale des Nations unies a décidé donc de proclamer le 22 mai, date de l'adoption du texte de la Convention sur la diversité biologique de 1993, journée internationale de la diversité biologique. Où en est donc la biodiversité aujourd'hui? Eh bien, les données disponibles sont très inquiétantes. En effet, 75% des milieux terrestres et 40% des écosystèmes marins sont fortement dégradés. Sur Terre, 1 million d'espèces sont actuellement menacées d'extinction. On parle même d'une sixième extinction de masse, car le rythme de disparition des espèces est 100 à 1000 fois supérieur au taux naturel. Le saviez-vous? Depuis 1992, il existe la COP15, une COP qui fait moins de bruit que les autres parce qu'elle est moins médiatisée, pourtant son objectif n'est pas des moindres. Pour les 196 États présents, d'enrayer le déclin du vivant. La dernière se tenait à Montréal en décembre 2022. Elisabeth Maruma Emra, secrétaire exécutive de la COP, disait, je la cite, « Nous sommes dans une crise planétaire ». Nous ne pouvons pas envisager d'atteindre les objectifs de Paris lors de la COP21 sur le climat sans restaurer la biodiversité. Le cadre se veut donc ambitieux, mais ne sera pas contraignant. Or, les objectifs d'Aichi, pris lors de la COP10 au Japon, restent inatteignables pour beaucoup de pays. Ils prévoyaient en effet, entre autres, de réduire au moins de moitié la perte d'habitat naturel, de protéger 17% des zones terrestres et des eaux continentales, tout en misant sur l'élimination ou la réduction progressive des subventions néfastes pour la biodiversité d'ici 2020. L'échec de ces objectifs s'explique notamment, selon Elisabeth Maruma Emra, par le manque d'implication des pays. Pour arriver à des résultats concrets, plus qu'en les États, Elisabeth Maruma Emra semble croire à la volonté des entreprises pour mieux évaluer les effets de leur activité sur la biodiversité, les documenter et les compenser. Alors quelles sont les grandes lignes à suivre pour le futur? L'Office français de la biodiversité rappelle, lui, que si la préservation de la biodiversité nécessite des stratégies nationales et une coopération internationale, les citoyens ont eux aussi un rôle essentiel dans la sauvegarde de notre nature. Par exemple, ne pas déranger les espèces animales rencontrées, éviter les promenades dans les milieux naturels sensibles comme les zones humides, les dunes littorales, les falaises, et limiter les émissions sonores, une discrétion qui offre d'ailleurs plus de chances d'observer les animaux sauvages. Il est nécessaire d'attacher ces animaux de compagnie lors de balades dans la nature, et enfin, s'il est tentant d'aider un animal blessé ou en difficulté, ce dernier peut être effrayé et imprévisible. Il doit être donc signalé à l'un des 31 centres français de sauvegarde de la faune sauvage
qui interviendra au plus vite pour soigner puis relâcher l'espèce dans son environnement naturel. Enfin, il existe des pollutions facilement évitables et pourtant néfastes pour notre biodiversité. Si la problématique des sacs plastiques est maintenant connue de tous et de toutes, il ne faut pas oublier les mégots de cigarettes ou encore les chewing-gums qui libèrent des substances chimiques toxiques comme de l'arsenic et d'autres polluants persistants pouvant être nocifs pour les espèces animales s'ils sont ingérés. L'établissement rappelle donc l'importance de ne jamais abandonner ces déchets dans la nature ou en mer. Et qu'en est-il donc décidé de cette dernière COP15 ? La conférence des Nations Unies sur la biodiversité s'est achevée par un accord historique destiné à guider l'action mondiale en faveur de la nature d'ici 2030. En effet, ce cadre prévoit de mettre un terme à l'extinction des espèces menacées par l'homme et diviser par 10 le taux d'extinction de toutes les espèces d'ici 2050. Utiliser et gérer la biodiversité de manière durable, partager équitablement les avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques ou encore veiller à ce que les moyens techniques et financiers pour la mise en œuvre du cadre mondial de la biodiversité soient accessibles à tous les parties, en particulier aux pays les moins avancés et aux petits États insulaires en développement. Outre la cible phare visant à protéger 30% des terres et des océans de la planète, plusieurs priorités d'action sont prévues, comme réduire l'impact des pesticides ou augmenter les financements en faveur de la protection du vivant. En outre, l'accord du Kunming-Montréal, qui s'est déroulé en décembre 2022, reconnaît le rôle majeur des peuples autochtones et d'autres acteurs locaux comme gardiens de la biodiversité. Pour pouvoir vérifier si les nouveaux engagements sont honorés, les signataires se sont accordés sur un cadre de suivi. Un bilan mondial doit être réalisé dans 4 ans. Toutefois, l'accord ne prévoit pas de mécanisme contraignant pour inciter les pays à suivre leurs engagements. Ce qui fait encore, de nouveau, défaut à ce genre de moments un peu historiques qui ne le sont pas finalement parce qu'on ne peut pas vérifier que tout ça va être bien fait. On peut toujours croiser les doigts et espérer en effet que cet accord historique soit effectivement plus marquant et plus efficace que tous les engagements qui ont été pris et qui ne sont pas tenus jusqu'à présent. Voilà pour cette journée mondiale de la biodiversité. En rappelant que si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site l'Office de la biodiversité français. Et moi, je voulais vous rappeler aussi qu'il y a une conférence sur la biodiversité le 24 mai, donc dans 2 jours, à 19h, au Centre culturel de Brive. Et c'est évidemment organisé par la Ligue de protection des oiseaux. Dans quelques instants, Isabelle viendra vous donner le temps de demain. Vous êtes ici sur Bram FM, il est 13h50 et c'est l'heure de la chronique en Limousin proposée par Le Graal. À tout de suite.
La chronique quotidienne du groupement des radios associatives libres en Nouvelle-Aquitaine, le rendez-vous de ses territoires et ses acteurs. Le Graal, producteur de proximité en Nouvelle-Aquitaine.
Le festival Coquelicompte s'est reparti du 16 au 28 mai. C'est un festival qui permet au plus grand nombre d'avoir accès à des spectacles de qualité dans des villages de Creuse et de Corrèze. Et grâce au financement du département, des communes, eh bien le plus souvent, ces spectacles sont gratuits.
Bon, généralement, on dit quand tu dis CSC, on dit tu es en train de mentir. Alors qu'un conteur, là, il ne ment pas.
Il ment pas.
Il dit des mensonges.
La différence, c'est quoi?
Quand tu dis tu es un menteur, là, mm-hmm. ça veut dire que toi-même, là, tu mens. Mm-hmm. Mais quand tu dis des mensonges, là, ça ne vient pas de toi. Hein.
Et surtout que c'est un mensonge, il y a une leçon qui est tirée à la fin.
Je suis Viviane Olivier, je suis directrice de la lecture publique et de la coordination culturelle, plus communément appelée la bibliothèque départementale. Et donc, nous organisons avec la bibliothèque départementale de la Corrèze, pour le département de la Corrèze et de la Creuse, le festival Coquelicompte. Et avec Compte en Creuse, on établit d'abord une programmation chaque année en fonction de nos connaissances, toujours des conteurs qu'on a entendus et dont on pense qu'ils seront particulièrement adaptés dans des conditions précaires, entre guillemets. C'est-à-dire que Coquelicompte va partout et donc souvent ça a lieu dans la salle des fêtes du village, voilà, dans les communes mettent les moyens qu'elles ont à disposition et donc il faut que les conteurs s'adaptent à des conditions relativement précaires. C'est pas des salles de spectacle, pas forcément, donc nous on prête aussi du matériel scénique avec des fonds noirs, des projecteurs, etc. On établit un catalogue, une proposition avec une douzaine de conteurs et ensuite c'est les communes qui choisissent dans ce catalogue le conteur, voilà l'univers qu'elles ont envie de recevoir.
C'était le chef des trolls. Un terrible diable, si vous voulez. Il ne souriait que lorsqu'il faisait le mal, lorsqu'il était méchant. Comme il était très méchant, il souriait tout le temps. Ce jour-là, il était dans le ciel à sourire encore plus que d'habitude. Il souriait tellement que ça faisait comme si son nez coulait, mais de la bouche. Il était très très content parce qu'il venait d'inventer un objet terrible pour faire plus de mal encore. Un miroir magique, machiavélique. Le troll a fait... Ce qui voulait dire... Dans le reflet de mon miroir, le bien deviendra le mal, le gentil deviendra méchant, le beau deviendra le moche, et tout ce qui est mauvais grossira, 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 comme au travers d'une loupe énorme.
Ce sont des conteurs qui viennent de toute la France et qui viennent également, cette année, on a un conteur qui vient du Québec, on a une conteuse qui vient de Belgique, voilà, c'est tout, et une conteuse qui vient d'Afrique, Floppy, qui vient de, je ne dis pas de bêtises, de Côte d'Ivoire. Donc voilà, on a vraiment des conteurs francophones, évidemment, mais qui viennent de partout. On a également Eric Chartiot, qui est nouveau sur Coquelicontes, qui fait un spectacle à la fois de magicien et de conteur, et qui, jusqu'à très récemment, était au Brésil. Mais c'est un conteur français, mais qui est en train de se réinstaller en France. Donc vous voyez, on a vraiment cette ouverture aux contes francophones. On veille à ce qu'il y en ait pour tous les âges. Alors évidemment, l'offre qu'on fait, c'est une offre grand public, la plus familiale possible, mais on a aussi des moments qui sont réservés plus aux tout-petits ou d'autres qui vont se dérouler en EHPAD, mais qui vont être ouverts à tout public. Tout le monde peut venir. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a vraiment du conte à la fois traditionnel pour certains et puis des répertoires beaucoup plus contemporains dans la mesure où les conteurs soit remettent des contes traditionnels au goût du jour, soit sont plus dans le récit de vie, dans le récit de voyage, écrivent leurs propres textes, leurs propres contes.
Un jour, les villageois demandent à Nasreddin
de leur montrer son front. Et à la place, il leur montre sa nuque.
Es-tu devenu fou, lui demande-t-il ?
Non, simplement, j'essaie de vous apprendre
que pour bien comprendre quelque chose,
il faut toujours voir d'abord ce qui se cache derrière.
Les extraits que vous avez entendus sont ceux de Anne Boutin-Pied, Floppy Mendoza et Kamel Zouaoui. Tout le programme est à retrouver sur le site biblio.creuse.fr ou sur la page Facebook Coquelicontes au pluriel ou en format papier dans toutes les bibliothèques du réseau départemental. C'était Anne-Laure Lejolif de RPG pour Le Graal.
La chronique quotidienne du groupement des radios associatives libres en Nouvelle-Aquitaine est à retrouver sur legraal.info. Le Graal, producteur de proximité en Nouvelle-Aquitaine.
Et vous retrouverez la chronique en Limousin à 18h sur les ondes de Bram FM, mais pour l'heure.
Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Je ne connais pas.
C'est Voyou. Voyou et November Ultra.
Ah ben pour c'est le titre très chouette.
Soleil, soleil.
C'est... Puis écoute, ça va bien, ce petit côté années 70 va bien.
J'adore. Tu verrais le clip.
Avec un pré-été. Ah bah ouais, tiens, je vais regarder.
Oui, regarde le clip.
Ce qu'il faut savoir, il faut rappeler pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, qui nous rejoignent comme ça intempestivement, que j'ai droit en général, quand même, quasiment quotidiennement, à ma petite surprise. Donc Eve me... fait la petite surprise de l'intro musicale de la météo.
Qui doit être en lien avec le temps. Alors, mais pas assez... forcément le temps qu'il fait, mais le temps de manière générale.
Mais bien sûr, tout donc, est
soleil,
pensé.
Soleil, pluie, vent, tempête.
Rien n'est laissé au hasard ici.
Rien.
Voilà.
Le temps de demain.
Le temps de demain, eh bien, ce sera un temps mitigé, mais un mercure à la hausse. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué déjà aujourd'hui, ben, ça continue demain. Donc voilà, ça sera la météo prévue pour demain, mardi 23 mai. Merci, au revoir. Non, je déconne, je continue quand même, je vais développer un petit peu, je ne suis pas feignante à ce point-là. En effet, le ciel passera par toutes les couleurs. Nous commencerons par du bleu, car la matinée sera plutôt lumineuse. Ouais, mais ça c'est jaune. Ouais, c'est pas grave, vous me comprenez. Mais ça sera ensoleillé malgré la présence de nuages pour mettre une petite touche de blanc dans tout ça. La période frisquette, en tout cas, on le disait ce matin, semble derrière nous. Pas vrai, Eve ? On le disait ce matin.
Oui, j'ai trouvé surtout que ça sentait. Il y a une odeur là, oui. Qui est nouvelle. Ça, ben on oui. Sent presque le début de
c'est
l'été.
Le
il y a un truc qui se passe là.
C'est le pré-été. Voilà.
Mais je confirme vos dires, Miss Météo.
C'est ça, hein. J'aime bien quand tu me vouvoies. Alors ça semble derrière nous, puisque le mercure, eh ben, là on y arrive, hein, à l'essentiel. Le mercure s'affichera entre 14 et 18 degrés le matin sur la Corrèze. Et puis l'après-midi se teintera peu à peu de gris. Et là, je vois vos sourires, mesdemoiselles Kiss. Mais non, ne désespérez pas, on a besoin d'eau. Oui, ça se teinte de gris pour l'arrivée d'averses orageuses, ce qui n'est pas facile à dire, mais j'y arrive quand même, partout sur le département, et ça je le dis sans aucune difficulté. Des températures bien confort décidément pour cette journée, on attend autour de 19 degrés à Ussel, 20 à Aigleton et Trégnac, 22 degrés à Userche, 23 à Tulle et Argentat, et enfin une maximale de 24 degrés du côté de Brive, devinez où ?
Beaulieu-sur-Dordogne, est-ce que vous êtes chaud, ouais.
Of course, as usual.
Merci Miss Météo.
Eh bien, à demain.
À demain. C'est la fin de cette émission et de ce direct. Un grand merci à Valériane Chrétien et Isabelle. Merci à vous, auditeurs et auditrices d'ici ou d'ailleurs. Cette émission est à retrouver en podcast sur le site de Bram FM avec tous les liens des titres musicaux et de tout ce dont on a parlé dans cette émission. Retrouvez-nous aussi sur Instagram et Facebook pour suivre toute notre actualité. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions en podcast sur le site aussi. La suite du programme à 14h dans 1 minute 30, c'est votre émission musicale métaclassique de David Christoffel, me semble-t-il. Voilà, et puis ce soir à 21h, il y a évidemment votre rendez-vous avec Vertigo. Et puis moi, je vous retrouve demain avec Audrey et d'autres surprises. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente après-midi à l'écoute de Bram FM, bien sûr. Tout de suite, le titre Monica de Yoral Thomas and the Pain.
Vous écoutez Bram FM à Monceau-sur-Dordogne.